tous, retrouvez tout de suite l'équipe de la demi-heure sport.
Bonsoir à tous, il est 19h24, on vous prend en direct sur Liberté FM. On est désolé, on a eu un petit problème technique, c'est pour ça qu'on est un petit peu à la bourre. L'émission est réalisée, comme d'habitude, par Cyril. Ça va Cyril ?
Ouais, ça va, merci.
Allez, on file ce soir, on va parler de running. Pour l'occasion, nous recevons deux invités. Quelqu'un qui est bien connu, c'est une athlète de haut niveau, c'est Yoann Durand qui est avec nous. Il est du coup en duplex, il est en direct du côté de Bergerac, qui sort de l'entraînement. Ça va Yoann ?
Salut à tous, ouais ça va impeccable, écoute, j'ai même pas eu le temps de me changer, donc je vous épargne l'odeur, mais voilà, je suis dans la voiture, l'entraînement vient de se terminer, donc désolé de ne pas être là en studio avec vous, mais toujours un plaisir d'être parmi vous, ouais.
Merci à toi Yoann. Et aussi, nous avons du coup Alison Marty qui est avec nous. Bonsoir Alison, merci d'être là.
Merci à vous de m'avoir invité.
Alors, Yoann Durand, comme on disait, de l'athlète au niveau, Alison Marty, ou dont la vie a été transformée par le running. Alison, si tu devrais résumer un petit peu ton parcours en une phrase, ça serait laquelle ?
Oula, ça a été un long chemin. Ça a été une grande bataille, mais je pense que je m'en suis sortie franchement grâce au sport, et notamment grâce à la course à pied, ça a tout changé pour moi, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Donc voilà, aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer, franchement.
On va y revenir, justement. On va revenir juste après sur tout ce qui s'est passé pour toi, du coup, Alison. Un petit peu là, ce que vient de nous dire, du coup, Alison, Yoann, quand on entend un petit peu ça, quand on entend, du coup, Yoann est avec nous.
Oui, je voyais plus.
Du coup, quand on entend un petit peu le parcours, quand Alison te dit que, du coup, la course à pied l'a transformée. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Bah moi, je suis content d'entendre ce genre de discours. Tu sais, la course à pied est un sport assez simple, très accessible. Et on a tous une bonne raison, un pourquoi on court. Et moi, dans mon cas, tu vois, moi, typiquement, c'est le dépassement de soi, c'est la recherche de performance, voir jusqu'où je peux aller, et le plaisir que j'éprouve dans ma pratique tous les jours au quotidien. Et puis, t'en as qui en ont besoin pour se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps, dans leur peau. Y en a qui courent pour le côté santé aussi du sport. Il y en a qui courent pour le côté compétition. Il y en a un peu pour tout le monde. Mais malgré tout, le fait de faire la course à pied, d'avoir ces espèces d'endorphines et ce moyen de se dépasser. Et c'est un sport assez simple, hein, qui demande pas beaucoup d'équipement, hein. T'as juste besoin d'une paire de chaussures, un bon t-shirt, un short, et puis après tu pars de chez toi et tu peux directement courir. À l'inverse d'autres sports où des fois faut aller dans des salles, faut aller dans des gymnases, faut aller dans des piscines ou autre, ou faut même les sports collectifs, c'est encore plus compliqué parce que faut trouver des gens pour jouer avec soi. Mais voilà, du coup ça me fait plaisir d'entendre ce discours-là parce que il y a aujourd'hui plus de 12 millions de pratiquants du running en France qui courent deux à trois fois par semaine. Et pour le côté sport santé, moi c'est quelque chose. Voilà, moi j'ai fait de la compétition du haut niveau pendant toute ma carrière, mais aujourd'hui j'adore écouter ce genre de discours et de voir que le sport peut changer certaines personnes et les changer en bien. C'est ça qui est super, ouais.
On revient du coup en profondeur un petit peu. Qu'est-ce qui a été le déclic en 2022, du coup, Alison? Il y a eu un déclic et ça a été quoi ce déclic qui a tout changé au final?
Je pense que c'est ma balance, en fait, tout ouais. Simplement. Je suis montée sur la balance et je me suis dit, ah ouais, là, quand même, ça commence à être un petit peu compliqué. J'avais bien sûr subi des moqueries au lycée, tout ça, mais là, je me suis quand même dit, là, il faut faire quelque chose quand même. Et franchement, j'ai commencé par l'alimentation, mais ça avançait pas. Enfin, pas du moins au rythme où je voulais. Je me suis dit, il faut quand même faire un petit peu de sport à côté. Et bah justement, comme le dit Yoann, j'ai choisi la course à pied parce que c'était le plus simple, en fait. C'est celui qui demandait le moins d'équipement, pas trop d'investissement, avec lequel on peut avoir des résultats assez rapidement, mine de rien, sur le physique. Et puis finalement, je me suis laissée prendre au piège, hein. Je me suis dit, bon, il faut absolument que je trouve un moyen pour que je m'y tienne, hein, parce que clairement, j'étais pas du tout motivée, je détestais le sport. Et je me suis inscrite au semi-marathon de Paris. Et là, je me suis dit, il faut que je m'inscrive dans un club de course parce que sinon, si j'y vais toute seule, je vais me blesser, je ne vais jamais me motiver. Et je me suis inscrite au club Périgueux Running. Et là, ça a été vraiment incroyable. Ils m'ont pris par la main, ils m'ont amenée jusqu'à mon objectif. Et puis finalement, une fois que j'ai réussi mon objectif du semi de Paris et que j'ai commencé à perdre du poids, en fait, je ne suis plus partie du club et je suis toujours licenciée. Et j'en fais la pub parce que vraiment, c'est un club avec des valeurs familiales et incroyable.
Alors, pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir du coup Alison en 2022 et vous pouvez voir la transformation du coup pour le marathon de Paris. Le marathon de Paris qui était donc vraiment l'objectif que du coup tu as réalisé. Là, c'était le week-end...
C'était le 12 avril.
Le 12 avril, voilà, ouais. Du côté de Paris. Et en plus, on a ce soir la personne qui a fait 4 fois le marathon, qui a fait, je crois, un top 20, 4 top 20 dans le marathon de Paris, du coup, Yoann.
Ouais, c'est ça, ouais. Je connais pas exactement les places, mais oui, j'ai fait 4 fois le marathon de Paris et 4 fois, ouais, dans le top 20 et quelques fois dans le top 15, ouais.
Non, mais attends, je les ai quand même. J'ai une 15e place.
Ah, une 15e. Tu connais les stats.
Mais... Ah, ouais, voilà. Une 15e place en 2025. Tu as été du coup en 16e en 2017 et 17e en 2025. C'est pas rien quand même, cette régularité.
Oui, non, mais c'est... Après, Paris est un marathon assez difficile, pas très roulant, même si j'ai réussi à faire mon record là-bas. Donc, moi, j'y ai mes attaches parce que c'est plus simple en termes d'organisation et que c'est un beau marathon dans certainement la plus belle ville du monde. Mais après, c'est pas le plus favorable à la performance et j'ai quand même couru beaucoup plus de marathons en Espagne qu'à Paris parce que, voilà, la météo, en plus, est plus simple en Espagne et les parcours sont beaucoup plus roulants et beaucoup plus favorables à la performance. Mais voilà, pour tous les débutants, vous savez que Marathon de Paris présente la statistique assez étonnante d'avoir 49% de ses participants qui sont des néo-marathoniens. Et je trouve que c'est un très beau marathon pour les gens qui se lancent un défi et qui veulent se lancer sur l'aventure du marathon. Paris est merveilleux pour ça, ouais.
Alison, comment tu l'as vécu, toi, du coup, ton marathon de Paris?
Franchement, super bien. Mieux que ce que je m'attendais. Franchement, j'ai pas du tout, j'ai pas eu le mur, j'ai pas eu le dégoût, plus du tout envie de courir après. Au contraire, quand ça a été terminé, je me suis dit mince, déjà, c'est comme si j'en avais pas assez profité en fait.
Non, ah, t'es la seule, hein.
Ah, mais je crois bien, oui, parce que quand je suis arrivée au kilomètre 40, je me suis dit, mince, elle était où la montée qu'on m'avait dit du 37e au 39e,
ouais.
Tu vas voir, ça monte, et le coureur à côté de moi, il m'a regardé, il me dit, non, mais tu rigoles, on vient de la faire, là. Et moi, je dis, ah, mais après, je suis habituée en Dordogne, on a tellement de montées que pour moi, le bois de Boulogne...
Ouais, ça t'a paru plat, ouais.
Ouais, ça m'a paru super plat, et je pense que j'étais bien préparée aussi, mine de rien, et puis...
Ah oui.
Le fait de ne pas m'être directement engagée sur un marathon, d'avoir fait quand même plusieurs semi-marathons avant, je pense que ça a été une bonne progression. Ça a été un bon temps d'adaptation pour mon corps pour ne pas subir justement le traumatisme du marathon.
Je crois que tu as participé à 13 semi-marathons depuis 2022.
Depuis, j'ai commencé en... Ben, mon premier, c'était Paris en 2023.
2023, ok.
Ouais.
Donc 13 semi... Donc pour habituer le corps. Pour toi l'expert.
Ah, c'est pas mal, hein.
Ouais, pour toi l'expert, du coup, Yoann, quelles sont les erreurs de Alison qui est débutante? Quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas faire?
Bah, les erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir progresser trop vite, d'avoir cette envie de tout de suite faire des distances assez longues. Et là où elle est très intelligente, c'est que tu viens de le dire. 13 semis avant de se lancer sur marathon, c'est assez rare. Hein. Chez les athlètes, généralement, ils courent 1-2 semis et derrière, ils se lancent direct sur la distance mythique. Et ça peut être dangereux parce qu'il y a un risque, il y a un vrai gap entre courir 21 km et en courir 42. Et encore plus quand ce sont des débutants qui n'ont même pas couru de semis et qui se lancent un défi de faire un marathon alors qu'ils n'ont pas du tout l'entraînement approprié. Et donc ça, ces gens-là, pour se dégoûter et se blesser, il n'y a pas mieux. Donc ça, c'est vraiment pas les conseils à faire. Faut vraiment y aller de façon progressive. Et après, c'est pareil dans l'entraînement, dans les intensités. L'erreur du coureur débutant, c'est de vouloir aller vite tout le temps et de pas respecter la logique de progression avec des footings en endurance fondamentale, des séances de fractionnés, des sorties longues à allure marathon, mais aussi des séances de récupération, des jours off. La récupération fait aussi partie de l'entraînement. Et ça, les coureurs débutants ont du mal à le comprendre. Ils veulent aller vite tout le temps parce que on a dans cet esprit que pour courir vite et longtemps, il faut s'entraîner vite et longtemps et fort, alors que pas du tout, il faut aussi des périodes de régénération.
Alison, du coup, quand tu entends ce que dit Yoann, qu'est-ce que tu en penses? Quand j'ai entendu en off, il y a une coupure, je crois, qu'il faut respecter jusqu'à dimanche. Tu t'es dit, je sais pas, oui, j'ai peut-être y aller.
Oui. J'ai 2 semaines de coupure là et c'est super dur. Je le vis très très mal, franchement. Du coup, bah, je compense avec un peu de renfo, du vélo. Mais bon, c'est quand même pas la même chose. Mais c'est vrai que j'essaie quand même d'écouter les conseils parce que je ne l'ai pas toujours fait par le passé. Et malheureusement, bah, ça m'a rattrapée. Hein. Donc maintenant, j'essaie d'écouter les conseils. Et là, après le marathon, 2 semaines de coupure. Mais clairement, j'ai vraiment hâte de reprendre.
Ça t'a rattrapée, c'est ce que disait Yoann. Du coup, c'était la blessure. La blessure est venue
Ouais, le surentraînement surtout.
Le surentraînement.
Le surentraînement... Et je m'entraînais trop et pas suffisamment. En fait, je courais toujours à la même vitesse. Et du coup, ben, y avait pas du tout de progression. Je m'épuisais pour rien. Donc clairement, le fractionné, c'était pas trop ma tasse de thé. Donc j'y allais tranquille. L'endurance fondamentale, c'était pas non plus ma tasse de thé. Donc du coup, j'y allais trop rapidement. Donc au final, c'est pas possible de progresser comme ça. Et finalement, en écoutant les conseils et en faisant pas la tête de mule, bah, je me suis rendu compte qu'on on pouvait progresser quand même. Mais ça a été dur hein, quand même pour réussir à gagner du temps sur mes chronos.
Et est-ce que sur les premiers semis, sur ce marathon, est-ce que sur la préparation, est-ce que tu as eu des moments de doute?
Oui.
Mentalement.
Oui. Bah, clairement, quand j'ai vu que pendant ma prépa, on n'allait pas plus loin que 26 km, je me suis dit « Oh là là, mais... » Je ne vais jamais réussir à tenir et puis tenir les allures sur 42. C'est quand même pas la même chose que sur 26 km. Hein. Puis bon, j'ai quand même décidé. Je dis, allez, c'est pas grave. On va faire confiance au coach. Il sait mieux que moi. Puis finalement, bah, il a eu raison. Hein. Il a eu raison. Mais bon, c'est vrai qu'on passe par des moments quand même de doute. Puis de fatigue parce qu'il y a le travail, il y a les aléas du quotidien, il faut faire attention quand même aussi un petit peu à l'alimentation. Il y a beaucoup de choses à gérer et puis moi, je suis pas professionnelle, hein, je fais ça en amateur avant tout pour le plaisir. Et des fois, on se dit, mince, c'est quand même beaucoup de sacrifices pour une passion, mais finalement, ça vaut quand même le coup.
Et c'est là où c'est que je vais me retourner du coup vers Yoann, le coureur élite. Yoann, pour toi, le mental, l'alimentation, de ce qu'elle vient de dire, là, tous ces sacrifices. Toi, du coup, c'est x10, x100.
Ouais, alors je ne sais pas fois combien, mais c'est vrai que y a la partie entraînement qui est très importante avec les séances de fractionnés et tout ce qu'on voit autour. Et après, il y a l'entraînement invisible, ce qu'on appelle l'entraînement invisible. Et là, c'est plutôt l'hygiène de vie, le sommeil, la récupération, l'alimentation, l'hydratation au quotidien. Et tout ce travail-là, il est super important si tu veux pas te blesser et si tu veux durer dans le temps. Donc effectivement, bien manger, bien dormir et bien boire, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire en plus de l'entraînement. Mais ça, c'est même pour les coureurs débutants, c'est des conseils qu'il faut dans une préparation marathon qui sont quand même assez longues et assez dures. C'est un conseil quand même que j'aime donner pour eux aussi. Mais voilà, et c'est pour ça que les périodes post-marathon comme aujourd'hui, il faut en profiter justement pour un peu lâcher le cerveau et pouvoir aller manger des choses qu'on n'a pas mangé depuis au moins 2 mois parce que j'étais focus sur mon marathon, de sortir, de voir des amis, de faire beaucoup d'activités que en temps normal on s'enlève un petit peu parce qu'on est en prépa marathon et que pendant 2 mois, on vit un peu comme un moine. Donc, c'est un équilibre à trouver pour que aussi le cerveau trouve du plaisir. Et puis après, à pas se dégoûter. Et la pire frustration pour le coureur, on y revient tout à l'heure, mais c'est la blessure. Et il n'y a rien de pire pour un coureur que d'être arrêté dans sa pratique. Donc, vraiment, il faut essayer au maximum ne pas se blesser. Donc, revenir à cet entraînement invisible, c'est quand même la base, ouais.
Et ça, c'est une martèle, hein, c'est vraiment écouter vos coachs. Pour les personnes qui n'ont pas été coach,
Qu'est-ce que tu conseilles, toi ? Est-ce qu'il y a des applis ? Il y a des choses où c'est qu'on peut se tourner, du coup, pour être un peu drivé ?
Bah, alors, le meilleur conseil, c'est quand même l'entraîneur de club. Hein, ça, y a pas de souci, parce qu'en plus, il y a un côté social. C'est-à-dire que la course à pied, effectivement, c'est très bien parce qu'on peut le pratiquer seul. Mais seul, 365 jours par an, c'est un peu compliqué, tu vois, des fois, de se motiver l'hiver, plein mois de janvier, quand il fait nuit à 17h et que tu rentres de ta journée de boulot et qu'il faut aller courir et mettre sa lampe frontale et courir dans le noir et qu'il fait 2 degrés et qu'il pleut, c'est compliqué. Donc, le fait d'être en groupe, des fois, ça peut être motivant. Donc pour moi, avoir des copains avec qui partager sa passion, partager sa préparation, ça peut être un atout. Donc ça, pour le côté club, c'est pas mal. Mais même si c'est pas en club, ça peut être avec des amis de temps en temps, partager ses séances d'entraînement, c'est vraiment cool. Et après, sinon, il y a des applications effectivement qui peuvent vous permettre de d'avoir un plan d'entraînement structuré, adapté. Moi, je sais que j'ai monté mon académie de coaching qui s'appelle My Running Club et qui permet d'avoir un plan vraiment adapté à ton profil. Et nous, on t'accompagne en fonction de ton objectif, ton rythme de vie, le temps que tu mets dans ta pratique et tout ça, et on adapte vraiment en fonction de tous ces paramètres pour adapter au plus juste l'entraînement et faire en sorte que tu progresses sans te blesser et en atteignant tes objectifs. Mais après, voilà, il y a des applications maintenant sur Internet et tout ça. Mais la base, c'est de vraiment respecter le travail, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir le travail d'allure, travailler dans les bonnes allures, et après respecter l'entraînement invisible, et normalement il n'y a pas de raison de pas progresser et de se blesser.
Et surtout, tu vois, l'application Yoann Durand, du coup, il faut télécharger.
Exactement, ouais. Voilà. My Running Club, ça s'appelle.
Voilà. Qu'est-ce que ça change, Alison, de perdre 25 kilos?
J'ai plus de cardio.
Ouais.
C'est clair. Ça, c'est sûr. Au quotidien, c'est déjà beaucoup mieux. Parce que, bon, moi, je suis enseignante. Donc, pour être avec des petits-enfants de 4-5 ans, c'est quand même mieux d'arriver à les suivre sans être essoufflée. Et sinon, pour en revenir à la course à pied, il y a quand même une plus grande liberté de mouvement. On gagne aussi en vitesse. Et enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai gagné un petit peu plus en confiance en moi aussi, puisque évidemment, quand on gagne en vitesse, qu'on a un certain dépassement de soi, puisqu'il y a quand même l'envie d'y arriver aussi, et ça demande des sacrifices au quotidien, ça demande beaucoup d'implication. Donc moi, ça m'a quand même aussi donné un petit peu plus, un peu plus confiance en moi. Et voilà, c'est déjà pas mal.
Ouais. Yoann, le running, ça transforme une vie ?
Ah, complètement. Non, mais la course à pied ou le sport, hein, le sport en général, c'est effectivement dans la confiance en soi. Je trouve que c'est quelque chose qui te transforme. Moi, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Je viens du foot et j'ai commencé la course à pied. Et j'étais quand même un gamin un peu timide, un peu réservé. Pas du tout le même que je suis aujourd'hui. Et effectivement, la course à pied m'a fait évoluer, m'a fait prendre confiance en moi. Tu sais, quand tu t'inscris, pour les coureurs lambda, mais quand on fait la démarche de s'inscrire sur un marathon et de se dire, vas-y, je suis capable d'être finisher de cette course ou de cette course, c'est pour se prouver des choses. Et quand on y arrive et que le soir on rentre de l'épreuve et qu'on est passé par des moments très difficiles où on a souffert, où on n'a pas pris trop de plaisir, mais ça a été compliqué, mais on y est arrivé, et à la fin de la course on a la médaille de finisher, quand tu rentres à la maison, tu te dis, ouais, voilà, tu te voulais te prouver quelque chose, tu l'as fait, t'es fier de toi, tu vois, tu rentres pas en t'affalant dans le canapé et en ouvrant les chips avec la bouteille de bière en rentrant du boulot, tu vois, c'est vrai que ça te transforme un petit peu, et dans le bon sens. Quand après ça devient pas non plus une addiction, parce que le problème de du sport ou des choses comme ça, c'est qu'à un moment donné aussi il y a une certaine dépendance presque à la course à pied ou au sport, et il faut pas non plus que ça prenne après le pas sur ta vie perso ou sur ta vie professionnelle. Donc c'est toujours un difficile équilibre à trouver. Ouais.
Ça, Alison, l'équilibre, tu l'as trouvé?
Maintenant, oui. Mais j'ai eu du mal quand même.
Au début,
parce que j'étais vraiment dans l'envie de progresser et de progresser vite. Et du coup, je pensais qu'il fallait m'entraîner toujours plus pour gagner en vitesse, pour gagner en efficacité, toujours plus de kilomètres, toujours plus rapidement. Et en fait, je suis allée complètement dans le mur en utilisant cette stratégie, hein, qui n'était pas du tout validée par le coach, hein, je tiens à le préciser quand même, évidemment. Et ça a été dur pour moi de me freiner et d'accepter qu'en faisant moins, j'allais progresser beaucoup plus. Pour moi, là, ça, c'était clairement pas possible. Donc, j'ai dû vraiment ne pas faire la tête brûlée pour une fois et c'était vraiment pas facile. Mais finalement, c'est vrai que ça a marché parce que mon corps avait quand même besoin de ce laps de temps de repos pour finalement pouvoir se reconstruire, se reposer et pouvoir repartir quand même beaucoup plus fort et d'arriver sur mes courses sans être complètement épuisé, sans avoir tout donné à l'entraînement et pour qu'au final, ça ne serve à rien du tout.
Johan, il y a des réactions directes. Tu as la bise de Théo Gadi qui dit « J'espère que tu as évacué les frites. » Alors, apparemment, tu as mangé des frites. Bravo, Johan.
Ah, il a tout vu. Il te surveille, Théo. Il est malin. Il est bon.
Réaction aussi d'un licencié du club de Périgueux. C'est Seb Brisson qui passe le bonjour. Pour toi, Johan, tu vois certainement des athlètes comme Alison qui est là ce soir avec nous. Est-ce que pour toi, le marathon est-il un rêve ou une logique à tous les efforts qu'ils font au quotidien ?
Ça dépend de la progression de chaque athlète. Il faut progresser. Après, ce qu'il faut pas, c'est tomber dans le côté extrême de la course à pied ou... C'est le toujours plus, c'est-à-dire que aujourd'hui, je le vois en trail. Si tu fais pas un 80 ou un 90 km en trail, tu vois, t'es pas un vrai trailer, quoi. Alors qu'honnêtement, déjà courir 40 ou 50 km, c'est déjà assez monstrueux. Et sur marathon, quand je vois des gens qui ont à peine couru, qui courent régulièrement, allez 5-7 km et qui se lancent du jour au lendemain sur marathon. Je trouve que le grand écart, il est trop important. Donc voilà, il y a des marches à suivre et il y a surtout ne pas vouloir en faire toujours plus, que ça soit un peu toujours exponentiel comme ça, et de garder les pieds sur terre, que le marathon, c'est assez dur et c'est une distance mythique et c'est déjà une épreuve en soi. Et qu'il n'y a pas besoin de faire des 180 km ou des choses comme ça pour être performant et se sentir bien dans son corps. Il faut avancer à son rythme. Et après, voilà, chacun a ses rêves en fonction d'où il part et d'où il a envie d'arriver. Mais il ne faut pas croire qu'on n'est pas un coureur si on court juste un semi. C'est déjà très bien un semi et il faut vraiment respecter son cycle, et si vous n'êtes pas attiré par la distance du marathon et que vous aimez que les semis, faites que du semi et c'est très bien comme ça, ouais.
Alison, est-ce que du coup aussi tu as eu des comparaisons ou la comparaison avec les autres ? Souvent on le dit, alors que ce soit la course à pied, que ce soit le vélo ou autre, il y a beaucoup de comparaisons avec des applications comme Garmin, comme Strava, où c'est qu'on va voir les athlètes ce qu'ils font, quels sont leurs temps ou autre. Est-ce que toi tu utilises ça pour voir du coup ta progression ?
Oui, j'utilise beaucoup Strava et je suis tout le temps sur ma Garmin. Et c'est vrai que ça me parle ce que tu me dis parce que je fais un petit peu de vidéos de création de contenu sur les réseaux sociaux. Et il y a eu une période où j'ai vraiment eu un petit peu de mal à me détacher de mes chronos et des chronos des autres. Je me comparais beaucoup et ça m'a vraiment causé des problèmes parce que j'ai fait 13 semi-marathons, comme tu l'as dit tout à l'heure, et j'ai mis très longtemps, j'ai passé mon 11e semi-marathon à enfin être sous la barre des 2 heures, la barre symbolique des moins de 2 heures, et ça m'a pris 11 semi-marathons, et à chaque fois j'étais vraiment à quelques secondes près, et en fait je me suis rendu compte que je me mettais une pression incroyable. Quand je m'entraînais seule sur la voie verte, j'y arrivais facilement, et dès que c'était une course officielle, je me mettais une telle pression parce que j'avais tellement envie.
Dès que t'as accroché le dossard.
Ouais, dès que j'accrochais le dossard, c'était vraiment la pression. Et dès le matin même, je partais sur une épreuve, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir. Enfin, j'avais plus du tout envie d'aller courir. Enfin, et je prenais aucun plaisir pendant la course. C'était que regarder la montre et me dire, oh là là, mais Que vont penser les autres? Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi je suis nulle? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et finalement, c'est quand j'ai commencé à me dire, bon bah tant pis, cette course-là, je veux vraiment la faire. Quand j'étais à Cardiff, je me suis dit, j'ai fait une prépa irréprochable, j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait faire, j'ai écouté les conseils du coach. Et au final, j'ai explosé mon chrono parce que vraiment, je m'étais pas mise la pression. Et je me suis détachée un petit peu de la comparaison, des statistiques. J'ai vraiment couru à la sensation sans être toujours le regard rivé sur la montre. Et vraiment, en étant à l'écoute de mon corps, finalement, c'est là que ça a mieux marché. Et j'ai appliqué ça aussi pour Paris. Et finalement, je me suis complètement détachée du chrono et j'ai passé la ligne d'arrivée en ayant le sourire jusqu'aux oreilles. Et vraiment, en fait, je pense que c'est... Il faut vraiment vivre sa passion à fond et malheureusement, on ne peut pas tout savoir les chronos de Johan, sinon c'est exceptionnel. Et du coup, je pense qu'il faut aussi savoir garder les pieds sur terre et regarder vraiment ses objectifs à soi et pas se focaliser sur les autres parce qu'on n'a pas du tout le même parcours de vie. Enfin, moi, j'ai commencé la course à pied il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, il faut aussi comparer ce qui est comparable.
Complètement. Du coup, est-ce que c'est dangereux, Johan, cette comparaison des stats tout le temps, aller regarder, aller chercher un petit peu, est-ce que j'ai fait bien, est-ce que j'ai fait pas bien, est-ce que j'ai été bon au niveau du cardio?
Ouais, elle a raison, elle a bien résumé le problème de regarder ce genre de statistiques ou de réseaux sociaux, c'est que du coup, on est dans la comparaison et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question du pourquoi tu cours et le jour où tu cours juste pour montrer aux autres ce que tu vaux ou pour prouver. Bah là tu as perdu la raison principale de la course. C'est pas pour les autres que tu cours, c'est pour toi et pour te faire plaisir et pour progresser à ton rythme et voir jusqu'où tu peux aller. Et effectivement, se comparer, il y a rien de pire. Moi sur Strava, je suis à l'époque où j'étais vraiment athlète de haut niveau, que je préparais les Jeux Olympiques, je suivais aucun athlète, aucun adversaire, parce que je voulais pas voir ce qu'il faisait, parce qu'il y a rien de pire pour te déstabiliser qu'à regarder ce que fait le voisin.
Ouais.
Ça te met une pression de dingue. Tout à l'heure, Alison disait, ouais, mon coach m'a donné que 26 km. Et je doute parce que j'ai douté avant le marathon parce que je me demandais si c'était assez. Et imagine si en plus de ça, elle était allée voir une copine à elle qui, elle, avait fait 32 km. Là, elle se dirait, elle s'est bien entraînée, elle a fait 32, moi j'ai fait que 26, je vais pas y arriver. Tu vois, il y a plein de paramètres comme ça qui viennent perturber, alors qu'il faut vraiment être concentré sur soi, sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est vraiment le premier point, numéro un. Et après, la deuxième problématique des réseaux sociaux, c'est que des fois, dans 95% des cas, les commentaires sont quand même assez bienveillants et des fois, ça arrive de se faire un peu clasher par rapport à ses chronos, par rapport à ses allures, alors que l'important, c'est d'aller courir et que tu passes un marathon en 6 heures ou en 2h05, je peux te dire que même à l'inverse, la souffrance, elle est plus dure pour la personne qui met 6 heures que pour celle qui met 2 heures. Honnêtement, c'est pas du tout le même effort. Donc voilà, il faut respecter ça et il faut faire attention à des fois, il y a toujours le petit lot de malins sur les réseaux sociaux qui derrière un écran se permettent de critiquer des gens qui déjà font l'effort de faire un effort qui est assez difficile de la course à pied. Et donc faut respecter un peu, respecter ça. Et donc du coup, effectivement, se comparer, c'est vraiment la dernière chose à faire, ouais.
Alison, du coup, là, on va arriver dans les 3 dernières minutes de l'émission. Si tu avais un message aux débutants, des gens là qui sont, qui entendent ton message, qui entendent un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ou des gens qui auront peut-être ce déclic ce soir?
Vaste question quand même. déjà, faites-vous confiance, osez vraiment, parce que moi, au début, j'osais pas. Et pourtant, il faut oser parce que c'est vraiment... ça a été un déclic pour moi. Et si vous n'osez pas y aller seul, entourez-vous des bonnes personnes, vraiment. Parce que ça, c'est vraiment l'erreur que j'ai faite. Et au final, je regrette de ne pas avoir osé et de ne pas avoir commencé plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, ça m'aurait changé la vie bien, bien plus jeune et j'en aurais eu vraiment besoin. Et voilà.
Eh bien, écoute, merci bien. Du coup, s'il y avait un mot de conclusion que tu voudrais dire, je vais te donner la parole. Du coup, Alison, c'est le dernier mot. S'il y a des choses qu'on n'a pas dit, je te laisse la parole et après, je terminerai avec Johan.
Ah oui, parce que sinon, je sais qu'il y a des gens de mon club qui m'écoutent.
Ah oui.
Donc, je voudrais... Ah. Ouais, il faut quand même que je dise que c'est un super club au cas où je ne l'ai pas assez dit pendant toute l'interview. Donc, si vraiment vous ne savez pas quoi faire, le mercredi soir, on est au stade à Périgueux. Donc voilà, sur le stade Marie-Josée Pérec et on fait du fractionné. Donc là, moi... je suis en repos, donc je ne peux pas y aller ce soir. Et je fais un gros bisou à tous mes copains qui sont en train de souffrir et de dégouliner. Voilà, et si jamais vous n'êtes pas dispo le mercredi soir, on organise une course le samedi 30 avril. Donc c'est un trail et il y aura une super ambiance. Donc voilà. N'hésitez pas à venir.
Et l'histoire et Alison, vous pouvez aussi la suivre sur Instagram, Alison, pour suivre ton histoire. C'est sur quoi?
Sur Instagram, et mon pseudo c'est Just Alice.
Voilà. Yoann, il y a aussi un super club de running à Bergerac. C'est à toi, du coup, c'est toi qui vas faire la conclusion. Si tu avais des choses à dire qu'on n'a pas dit, c'est pour toi, Yo.
Non, mais je trouve que Alison a tout dit vraiment. La course à pied est un sport ultra simple qui est. Accessible à tout le monde, voilà, faut juste s'écouter, démarrer progressivement, y aller petit à petit, et après être bien entouré, ça peut aider. Et effectivement, à Bergerac, on a le Bergerac Athletic Club qui organise ce week-end les 5 et 10 kilomètres de Bergerac. Malheureusement, ils sont complets à l'heure où on enregistre, donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine parce que c'est une belle manifestation, c'est en soirée, c'est en semi-nocturne là, à 19h, donc là on est fin avril, il fait beau, il fait chaud, à 19h, c'est plaisant de courir un 5 ou un 10. Et à l'inverse du marathon, le 5 et ou le 10 reste vraiment une épreuve accessible à tous les coureurs. Donc l'année prochaine, je compte sur vous.
Yoann, on peut pas gratter un dossard pour Alison?
Mais bien sûr, si elle veut, elle est la bienvenue, je m'en occupe.
Allez, nickel, c'est
mais attention, elle est en récup, je voudrais pas me faire fâcher par son
corps. On a rien entendu,
il
on a rien entendu.
15 jours de récup.
On a rien entendu. Merci, et du coup, Yoann, on peut retrouver sur RMC avec RMC Running, du coup. C'est quand?
Tout à fait.
C'est
des podcasts sur RMC Running. On en sort 3 à 4 par semaine. Et voilà, lundi, jeudi, samedi. Et après, moi, sinon, vous me suivez sur Instagram, Yoann Durand, ou même sur Strava si vous voulez suivre mes entraînements.
Merci à toi, Yoann. Merci, Alison. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans la demi-heure sport. Ciao, ciao. Merci.
Merci.